Radio Plus, encore plus proche de vous. Émission spéciale avec vos animateurs en direct. Toute une équipe mobilisée pour vous faire vivre les événements au cœur du bassin minier et de l'Artois.
Radio Plus. Radio Plus.
Et nous sommes toujours en direct de Lille Grand Palais pour vous faire vivre le salon autonomique Lille Europe jusque demain, hein, d'ailleurs, puisqu'on est ensemble aujourd'hui et demain pour vous faire vivre ce salon. Et aujourd'hui, c'est jusque 17h. À mes côtés, eh bien, Lucie, qui est avec l'association Signe de Sens, qu'on va retrouver d'ici quelques instants. J'ai juste une petite info à vous communiquer si vous venez au forum autonomique. Si vous venez justement au salon autonomique, il y a un forum et justement à 16h tout à l'heure. Alors, il y aura une conférence théâtralisée sur le thème « Au secours, j'ai un collègue sourd, comment accueillir une personne sourde en entreprise ?» Et ce sera animé par Vivien Laplane, qui est conférencier et également acteur, donc à découvrir si vous êtes également présent au sein de ce salon ou si vous comptez vous y rendre, hein, puisque le salon est ouvert jusque 18h au public. Et tout de suite, on retrouve Lucie avec son invité.
Bonjour, bonjour. Je suis avec Valentine Cadu, chargée de communication de Signe de Sens. Donc, Signe de Sens, c'est bonjour. Signe de Sens, c'est une association qui agit pour l'accessibilité à l'information pour les personnes handicapées, notamment handicapées sensorielles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
C'est ça. Donc, en fait, nous, Signe de Sens, on est une association qui est basée à Lille, qui existe depuis 2003, donc depuis 16 ans. Et donc, on travaille en fait sur l'accès à l'information, au savoir, à la connaissance. Et on travaille surtout sur les handicaps cognitifs, sensoriels. Donc ça peut être l'autisme, ça peut être la surdité, la déficience intellectuelle, voilà.
Les handicaps dits invisibles.
Exactement, ouais.
Vous me parliez tout à l'heure d'une action qui se structure autour de trois programmes. Est-ce que vous pourriez m'en parler un peu ?
C'est ça, en fait, on a trois grands programmes d'action. Alors, le premier programme, c'est autour des infos, des démarches administratives. Donc en fait, on est en pleine période de dématérialisation des démarches. Tout le monde galère un peu avec les formulaires administratifs. Et nous, on essaye de rendre justement ces formulaires accessibles. Donc on travaille sur autant le fond que la forme, avec des services publics, etc. Notre deuxième programme, c'est autour de l'accès à la lecture. Et là, on travaille avec des médiathèques pour en fait créer des espaces avec des livres accessibles à tous les enfants. Et notre ambition, c'est que dans chaque médiathèque, dans toute la France, il y ait des espaces avec des livres pour tous les enfants.
Les livres pour tous les enfants, c'est les enfants valides, mais aussi les enfants non valides.
Exactement.
Des livres, des audiobooks
Alors du coup, ce qu'on peut retrouver, c'est des livres avec des gros caractères. C'est des livres avec des adaptations pour la dyslexie. C'est également des livres avec des habiletés sociales. En fait, c'est des apprentissages de la vie quotidienne pour les enfants qui ont des troubles autistiques. Donc voilà, on a vraiment une vision très très large de ce qu'est l'édition adaptée. Et le but, c'est que chaque enfant trouve son bonheur. Que même un enfant qui n'a pas de handicap se dise « Ah, bah, les gros caractères, c'est cool » et puisse s'emparer d'un livre, le trouver facilement. Voilà.
Et le troisième programme ?
Et le troisième programme, on travaille autour de la langue des signes et de l'accès au web, puisqu'en fait, les personnes sourdes ont parfois de grandes difficultés avec le français écrit. Et en fait, on travaille sur l'accès au contenu sur Internet. Donc en fait, on a développé un outil qui s'appelle la bulle Elix, qui permet, lorsqu'on clique sur un mot sur une page Internet, d'avoir le signe qui correspond à ce mot-là ou la définition de ce mot-là en langue des signes.
Je crois aussi, au niveau de la langue des signes, vous me parliez d'ateliers langue des signes un peu toutes les semaines, je crois, c'est ça ?
Alors, pas exactement. En fait, on organise fréquemment des soirées langue des signes, surtout à Lille, où en fait, on présente ce que c'est que la langue des signes, on sensibilise, ça permet de faire des rencontres entre les entendants et les personnes sourdes. Et on a également développé des jeux pour apprendre la langue des signes, ce sont des petits jeux de cartes. Donc ça permet voilà, de se sensibiliser le temps d'une soirée à la langue des signes et de se découvrir une passion, pourquoi pas. Et on propose derrière, nous, des formations en langue des signes également.
Concrètement, quels sont les dispositifs mis en place par vous ? Vous me parliez d'une application notamment tout à l'heure pour favoriser du coup l'accessibilité à l'information ou l'inclusion des personnes handicapées.
Alors, concrètement, on est sur plusieurs domaines. Donc, ce qu'on peut utiliser, par exemple, on a Elix, qui est un dictionnaire en langue des signes. Donc, c'est une application qui est gratuite et qui va permettre, lorsqu'on cherche le mot maison, de trouver le signe de maison. Mais on a également une autre application qui s'appelle Ben le Koala, qui est un petit personnage qui va apprendre les gestes de la vie quotidienne aux enfants de 3 à 6 ans. Donc ça, c'est une application et c'est aussi une chaîne YouTube. Et après, comme je disais, comme projet concret, on a tout notre programme en édition jeunesse accessible qui va permettre de retrouver des livres un peu partout. On a d'ailleurs un espace qui a ouvert à la médiathèque Jean Lévy à Lille cette semaine. Donc vous pouvez le découvrir dès aujourd'hui.
Vous me parliez d'une conférence tout à l'heure aussi que vous donneriez demain, je crois.
C'est ça. En fait, il y a une conférence qui est organisée par Wexperience qui aura lieu au Mama Shelter à Lille demain matin. À partir de 9h. Et en fait, c'est une conférence autour de l'accessibilité numérique. Donc, comprendre en quoi c'est un enjeu pour les entreprises de rendre leur site internet, leur service accessible numériquement aux personnes qui sont en situation de handicap. Déjà parce que c'est essentiel que ces personnes-là aient accès aux mêmes services que les personnes qui n'ont pas de handicap. Et également parce que c'est vraiment un facteur de développement économique pour les entreprises.
Est-ce que vous en donnez beaucoup, des conférences de ce type, ou vous donnez d'autres ateliers ou manifestations ?
Alors de plus en plus souvent, on intervient lors de conférences, exactement, puisque du coup on a plutôt une expertise sur ce champ-là de l'accessibilité à l'information. Il y a une vraie prise de conscience en France. Donc on est de plus en plus sollicité pour des conférences comme ça, effectivement.
Et vous me disiez aussi que Signe de Sens était l'une des seules associations de ce type qui donne accès à l'info aux personnes handicapées, c'est ça ?
Alors en fait, nous, la particularité de l'association, c'est qu'on n'a pas un secteur en particulier. Donc on travaille aussi bien sur la surdité que sur l'autisme, la déficience intellectuelle, etc. Donc du coup, c'est ce qui fait notre particularité, c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait aussi notre diversité, puisqu'on est sur plein de domaines différents. Voilà. Alors je ne dirais pas qu'on est unique en France, mais c'est un de nos points forts et c'est quelque chose qu'on s'attache à développer. Et on est toujours en recherche de nouveaux sujets, de nouveaux secteurs à faciliter l'accès, etc.
Est-ce que vous avez des retours parfois de personnes handicapées qui souhaitent un service spécial ? Est-ce que vous êtes en demande de ce genre de sollicitations ?
Alors la plupart de nos projets, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est parti du terrain. Par exemple, pour Ben Le Koala, c'est des structures médico-sociales qui nous ont fait part d'un besoin pour les apprentissages de la vie quotidienne pour les enfants. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de projets qu'on a déployés à partir des envies du terrain et on a travaillé ensuite en partenariat avec des structures qui connaissent bien les publics en situation de handicap et qui pouvaient nous renseigner là-dessus. Et on a travaillé également directement avec des personnes en situation de handicap. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Notamment sur notre travail autour des démarches administratives. On a une plateforme qui s'appelle Info Accessible qui permet de faciliter l'accès aux démarches administratives, par exemple lorsqu'on cherche un logement, etc., lorsqu'on cherche un emploi. Et cette plateforme-là, on l'a fait tester par des personnes qui avaient une déficience intellectuelle.
Donc un accompagnement en fait pour ces personnes-là.
Voilà, c'est ça.
On a parlé pas mal d'accès à la littérature pour les enfants, d'accès aussi à l'éducation. On a parlé de la langue des signes, mais je vois que sur votre support de communication, vous parlez également de culture et de médico-social et d'entreprise. Comment est-ce que vous agissez sur ces domaines-là ?
Alors, pour la culture, on a un de nos gros projets qui s'appelle Muséo Plus, c'est ça ? Qu'on a développé avec le Palais des Beaux-Arts à Lille et avec le musée du Quai Branly à Paris. En fait, le concept, c'est d'avoir une tablette pour les enfants. Et en fait, les enfants vont avoir un petit parcours dans le musée et vont pouvoir découvrir les œuvres grâce à cette tablette. Et cette tablette-là, elle est accessible puisqu'on a travaillé avec de la langue des signes, on a travaillé avec une voix off, on a travaillé avec des sous-titres. Et on a vraiment fait en sorte que les boutons soient faciles d'accès, que l'interface soit très simple, que l'ergonomie soit facile et que la tablette soit simple à utiliser.
Si on veut vous retrouver, si on veut rentrer en contact avec l'association, comment est-ce qu'on fait ?
Alors nous, du coup, on a une page Facebook qui s'appelle Signe de Sens. On a également un compte Twitter.
Signe au pluriel, je crois.
Alors signe, ça s'est écrit. Donc signe de sens, c'est signe au pluriel de sens, en trois mots. On a un site internet voilà, qui résume toutes nos activités. Et voilà, donc on a une grosse présence sur les réseaux sociaux et on a une nouvelle page Instagram pour notre plateforme Elix, justement, donc au niveau de la langue des signes.
Et vous êtes donc présent à Lille.
C'est ça.
Merci beaucoup pour votre intervention, Valentine Cadu. C'était la chargée de communication de l'association Signes de Sens qui agit en faveur de l'accessibilité des informations pour les personnes handicapées. Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup, Lucie. Et tout de suite, on va retrouver Julien d'ici quelques instants. Et Julien qui est donc avec un nouvel invité.
Oui, tout à fait, Jean-Philippe. Nous sommes avec la société Sojadis, représentée par Pierre Gouraud, responsable export. Alors, Pierre Gouraud, bonjour. Quelques mots pour nous présenter Sojadis.
Bonjour, alors la société Sojadis, c'est une société familiale qui a été créée dans les années 80. On est basé dans l'ouest de la France, de Angers, Nantes. Et donc nous, notre métier, c'est le développement, la fabrication de tout ce qui est aide à la conduite pour les personnes à mobilité réduite.
Alors on parle bien d'adaptation du poste de conduite et non pas de création de véhicules adaptés. Ce sont en fait des options que l'on va rajouter sur des postes de conduite déjà existants, c'est ça ?
Tout à fait. En fait, on va ajouter nos produits sur un véhicule existant. Donc il faut savoir que ça va être que des véhicules à boîte de vitesse automatique. Et donc on va ajouter tout type d'adaptation, des accélérateurs, des freins manuels, des accélérateurs pied gauche, tout type d'adaptation pour une personne à mobilité réduite.
Voilà, on parle effectivement de handicap physique, de paraplégie, d'hémiplégie, de tout ce qui peut effectivement réduire notamment la mobilité des jambes. Alors, vous présentez aujourd'hui hein, plusieurs produits. On a notamment ce produit qui est un cercle accélérateur. Alors, il est précisé d'ailleurs hein, que c'est historiquement la première adaptation qui a été mise en place. Comment est-ce que ça fonctionne ?
Alors le principe du cercle accélérateur, en fait, il faut imaginer un anneau sur le volant et donc on va appuyer sur ce cercle pour pouvoir accélérer. Évidemment, en complément de ce cercle accélérateur, on va avoir un frein manuel qui sera normalement installé à droite du volant.
Voilà, on est encore dans un système effectivement de poignée à tirer pour le coup. Oui, c'est. Alors, on va pousser là pour le coup pour freiner. Ah oui, effectivement. Oui, et puis effectivement, on sent aussi la densité qu'on peut, l'intensité qu'on peut avoir à mettre comme sur un véhicule classique, effectivement. Alors, autre possibilité d'adapter, là on est sur quelque chose d'un peu plus évolué avec une poignée rotative cette fois-ci et puis un autre mode d'accélération. Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne.
Oui, tout à fait. Donc là on est sur l'Axel Bike 2 qui est en fait une poignée rotative, un petit peu type poignée moto. Donc on va tourner cette poignée pour pouvoir accélérer. Et donc pour freiner, on va seulement pousser ce levier. Et en complément de cet accélérateur frein, on aura un mini clavier pour pouvoir activer les clignotants, le klaxon, toutes les fonctions électriques du véhicule. Voilà, donc c'est la nouveauté 2019 de la société Sojadis.
Et avec également une poignée ronde pour pouvoir manipuler le volant. D'ailleurs, sur le volant que vous présentez, là, il n'y a qu'une seule poignée, mais en réalité, on pourrait la mettre aussi bien à gauche qu'à droite.
Oui, tout à fait. Alors, on peut installer à gauche, puisque là, on a dans la présence d'une poignée moto qui est côté droit pour la main droite. On peut tout à fait imaginer une poignée moto main gauche, et du coup, la boule au volant, la boule de direction sera main droite.
Alors on vient de présenter effectivement des évolutions qui concernent les personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser leurs jambes et qui utilisent plutôt leurs mains pour faire fonctionner le volant. Là on est sur un autre type d'innovation avec un accélérateur pied gauche. Expliquez-nous.
Tout à fait. Donc l'accélérateur pied gauche, le principe, donc ce sera pour tout ce qui est hémiplégie droite et également les personnes qui ont leur jambe droite qui ne fonctionne plus. Donc le principe est simple, en fait on va démarrer le véhicule et on a donc la pédale d'origine sera active et on a 30 secondes pour appuyer sur un petit bouton poussoir pour désactiver la pédale d'origine par sécurité et la pédale de gauche sera active. Voyez. Et donc le principe c'est une fois qu'on démarre le véhicule, appuyer sur le petit bouton pour pouvoir utiliser notre accélérateur pied gauche.
Parce que c'est ça aussi hein, la spécificité de vos produits, c'est que c'est un complément à un poste de conduite déjà existant. On pourrait donc tout à fait imaginer une alternance entre un conducteur valide et un conducteur à mobilité réduite.
C'est exact. En fait, nous, on vient seulement ajouter un produit. Un conducteur lambda peut tout à fait utiliser sans aucun problème nos produits. Il démarre Il démarre le véhicule normalement. Il ne se pose pas de questions. Il conduit normalement le véhicule.
On va présenter la dernière innovation qui est sur votre stand. On va évidemment la regarder ensemble, le temps de s'y rendre. Et vous allez nous expliquer en quoi elle consiste et comment est-ce qu'elle fonctionne.
Alors là, on est encore sur un système d'accélérateur frein manuel. C'est un petit peu le même principe que la poignée rotative, sauf que ici, à la place de la poignée complète, ça va être seulement une gâchette. Donc comme sur un quad, en fait, vous pouvez accélérer... le véhicule avec votre pouce, avec une pression sur un petit levier. Voyez, pour le freinage, vous pouvez appuyer sur le frein, une poussée vers l'avant.
Et toujours cette poignée avec les commandes centralisées. Alors là, la particularité, c'est que sur ce modèle que vous êtes en train de nous présenter, la poignée est rotative, c'est-à-dire qu'on peut la bouger pour pouvoir accéder plus facilement aux commandes clignotants, phares, essuie-glace, etc.
Oui, ici, on est en présence d'une boule multifonction, donc pour la direction et pour les commandes, donc, comme, donc pour activer les clignotants, le klaxon, etc., etc. Différentes fonctions électriques du véhicule.
Alors tout ceci s'implique aussi justement dans le cadre d'une transformation de véhicule. Vous avez, votre société a publié un livre blanc autour de la conduite en situation de handicap. Un livre, vous me disiez d'ailleurs, qu'on peut récupérer tout à fait gratuitement en téléchargement libre. On y reviendra après. Quelles sont les différentes étapes à suivre lorsque l'on est reconnu en situation de handicap et que l'on souhaite désormais pouvoir conduire un véhicule?
Donc évidemment, le passage obligatoire, c'est la visite médicale auprès d'un médecin agréé qui va vous dire décider de votre aptitude à conduire. Ensuite, on va devoir revalider son permis de conduire. D'ailleurs, dans notre livre blanc handi-conduite, on a référencé tous nos auto-écoles handi-conduite. Ensuite, dans ce livre, on présente également, on vous donne des conseils pour choisir le bon véhicule, le bon équipement et aussi quelque chose de très très important, c'est les aides au financement de l'adaptation du véhicule.
Parce que c'est un coût, effectivement, on finance à la fois le coût de la pièce et le coût de l'adaptation du véhicule. Pour qu'on ait un ordre d'idée, le prix de base est de combien? Par exemple, pour un modèle comme celui-là, le modèle historique Cercle Axel.
Pour un accélérateur frein manuel, on est aux alentours de 2 500 € à peu près. Donc pièce et main d'œuvre.
Donc effectivement, un coût assez important. Et vous me disiez aussi, justement, en préparant cette interview, que l'un de vos souhaits, l'une de vos pistes de développement, c'est de travailler de plus en plus avec les auto-écoles. Vous m'avez montré la carte tout à l'heure qui figure dans votre livre blanc handi-conduite. Il y a des endroits où c'est un désert d'auto-écoles adaptées.
Oui, exact. Aujourd'hui, on a adapté entre 100 et 120 véhicules auto-écoles adaptées. Et notre objectif, c'est d'en avoir au moins une par département. Et
il y en a plusieurs dans la région.
Dans certaines régions, on n'en a pas encore, malheureusement. Donc, si des auto-écoles nous entendent, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera avec plaisir qu'on vous orientera vers la meilleure solution pour vous.
Visiblement, en tout cas, chez nous, ça m'a l'air globalement bien représenté. On a d'ailleurs une auto-école qui forme à la conduite en situation de handicap qu'on aura peut-être l'occasion d'interviewer, mais le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, de manière générale, sont bien représentés sur cette carte.
Oui, exact. Aussi, on a un très très bon partenariat avec la société CEA, avec laquelle on expose aujourd'hui. Donc c'est aussi grâce à CEA que on a pu développer ce réseau d'auto-écoles handi-conduite dans les Hauts-de-France.
Et donc ce livre, vous le proposez sur votre stand et je le disais, on peut également le télécharger librement en ligne. Comment fait-on?
C'est très simple, on va sur le site www.handiconduite.fr.
Pierre Gouraud, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes responsable export au sein de Sojadis qui propose donc des solutions d'adaptation des véhicules. Merci à vous.
Merci beaucoup Julien pour toutes ces explications très intéressantes. Et donc je vous rappelle l'adresse aussi du site internet, c'est le www.sojadis.com. Alors Sojadis, ça s'écrit Sojadis.com. Et d'ailleurs sur ce site vous retrouverez bien la liste des auto-écoles qui vous permettent de passer le permis de conduire avec si vous êtes en situation de handicap, avec donc différents systèmes pour adapter la manière de conduire. Allez, tout de suite sur Radio Plus, on repart en musique avec Huey Lewis and the News et bien sûr le titre The Power of Love sur Radio Plus. Make a one man weep, make another man sing. Huey Lewis and the News, The Power of Love sur Radio Plus, bien sûr la musique de Retour vers le futur, comme vous le savez évidemment. On va retrouver Julien et Lucie d'ici quelques instants sur Radio Plus pour de nouvelles interviews, en attendant de retrouver nos prochains invités. Je vous rappelle que nous sommes en direct du Salon Autonomique à Lille Grand Palais, un salon qui ferme ses portes à 18h aujourd'hui, mais vous pouvez également retrouver ce salon dès demain à partir de 10h et également jusqu'à 18h. Et on est également ensemble toute la journée demain pour vous faire vivre ce salon avec différents stands, différents secteurs d'activité à vous proposer, différentes disciplines autour du handicap et puis du grand âge. Donc n'hésitez pas aussi à venir nous faire un petit coucou au stand de Radio Plus. On est présent au bout du salon et puis on va vous faire vivre évidemment encore quelques heures ce salon avec plein d'animations. Il y a également, je vous le disais tout à l'heure, un parcours autour, un parcours pour justement tester les difficultés des personnes en situation de handicap lorsqu'elles sont en fauteuil. Donc ça, c'est prêté par la ville de Villeneuve d'Ascq. Peut-être qu'on le fera tout à l'heure en direct avec un ou une des animatrices de Radio Plus. Également d'autres stands, on a parlé de tourisme, on va parler de culture, de danse très prochainement, je pense, avec Lucie qui devrait arriver avec ses invités d'ici peu de temps. En attendant, je vous propose de partir dans la région en musique avec le groupe Rutabaga, à trop penser.
Dans une dérive inconsciente, flamme d'essence. À trop penser, à trop rêver, à oublier ce trouble, l'ennui. À trop penser, à trop rêver, à oublier cet instant de vie. Ces soirs de fête où l'âme posée sur le comptoir sans désir d'étancher la soif d'un soir. Avoir les nerfs accrochés à ce lit, regarder l'homme sur la croix, ne plus croire en lui. À trop penser, à trop rêver, à oublier ce trouble, l'ennui. À trop penser, à trop rêver, à oublier cet instant de vie. De nouveaux jours, tisser une nouvelle toile. S'ouvrir au monde, ne plus pleurer ses lendemains. Font le cœur qui repose entre les mains. À trop penser, à trop rêver, à oublier ce trouble, l'ennui. À trop penser, à trop rêver, à oublier cet instant de vie. J'étais parti pleurer dans les bras de Lady. Elle m'enivreur de parfums d'essence dans une dérive inconsciente, flamme d'essence. À trop penser, à trop rêver. passer, à trop rêver, à oublier cette tranchée de vie.
Le groupe Rutabaga à l'instant avec « À trop penser » sur Radio Plus. Alors, dans quelques minutes, vous allez retrouver Julien et Lucie qui sont en train de se préparer pour le parcours d'éveil sensoriel qui est présenté par la ville de Villeneuve-d'Ascq au salon autonomique hein, pendant ces deux jours. Hein, un parcours qui va vous permettre de vous confronter hein, à la réalité du quotidien des personnes en situation de handicap et en situation de mobilité réduite. Et donc justement un parcours qui va être testé par Julien et par Lucie. Alors je ne sais pas où vous en êtes Julien, Lucie, à savoir est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Oui, alors...
Pas encore.
Pas encore, hein, vous êtes bien sûr dans la file d'attente, j'imagine. Je ne vous vois pas d'ici, mais il y a du monde, j'imagine, pour tester ce parcours. Ah, je pense qu'il ne nous entend pas. En tout cas, c'est grave. On va tout simplement repartir en musique en attendant avec notre groupe de la région, les Blaireaux, et extrait de l'album Le Sens du Poil, c'est Pom 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 Frites.
Pom 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 Pom. Pom 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 Pom. Je les avais calés par an dîner dans un grand restaurant. Je savais déjà par le menu quel serait mon menu. Au risque de faire des honneurs à mes augustes géniteurs, au risque qu'ils me déshéritent, je prenais des frites. Aujourd'hui on me demande encore pourquoi j'ai choisi le Nord au lieu de descendre à Paris, aller voir là-bas si j'y suis. Pom, 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 pom. La première fois que j'ai pris conscience qu'il faut pas se fier aux apparences, c'est quand j'ai su que les frites en clair, ben, c'était de la pomme de terre. Depuis quand je croise une grosse patate qui essaie de se prendre pour un Goliath, je me dis que sous ces airs de Brad Pitt se cache peut-être une frite. Aujourd'hui on me demande encore pourquoi j'ai choisi le Nord au lieu de rejoindre le tout Paris, là où tout se sait, tout se dit. Oh mon chéri, vous ici. Si je ramène pas mon sac de riz, quand c'est le bordel en Somalie, c'est que les gamins de Mogadiscio rêvent aussi de frites maillot. Plus tard, je ferai le monde entier, tel le baron Parmentier, avec sur le dos une marmite et 33 kilos de frites. Aujourd'hui, on me demande encore pourquoi j'ai choisi le Nord, au lieu de crever de faim à Paris, à force de bouffer les sushis. Une friterie du stade Grimont-Préjoris, un soir qui faisait moins 10, il se passait rien sur le terrain quand j'ai osé lui prendre la main en lui disant réchauffe-toi vite, tout contre ma, mes frites. Aujourd'hui on me demande encore pourquoi j'ai choisi le Nord au lieu de descendre à Paris, là où les filles sont si jolies. J'arriverai au purgatoire, du cholestérol plein le tiroir. Je demanderai au chef de cuisine ce qu'on mange à la cantine. S'il me répond
la pomme de terre,
oh ben j'irai tout droit en enfer. Au moins je serai sûr qu'elles seront bien cuites, qu'elles seront bien frites. Longtemps, longtemps après ma mort, on se demandera encore pourquoi j'ai choisi de vivre ici plutôt qu'aller au paradis. Longtemps, longtemps après ma mort, on se demandera encore pourquoi j'ai choisi de vivre ici plutôt qu'aller au paradis. Longtemps, longtemps après ma mort, on se demandera encore pourquoi j'ai choisi de vivre ici plutôt qu'aller au paradis. Longtemps, longtemps après ma mort, on se demandera encore pourquoi j'ai choisi de vivre ici plutôt qu'aller au paradis.
Les Blaireaux sur Radio Plus avec Pom 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 Frites. Allez, tout de suite, on va retrouver Julien en direct depuis le parcours sensoriel.
Oui, tout à fait, Jean-Philippe. Nous sommes en compagnie de Valérie Accard qui, avant que Lucie ne serve de cobaye, eh bien, va pouvoir nous présenter un petit peu ce parcours que l'on va retrouver. Alors Valérie, quelques mots tout d'abord pour vous présenter.
Donc bonjour, je suis Valérie Accard de l'entreprise AlphaSens et là je suis sur le parcours de la mairie de Villeneuve-d'Ascq qu'on peut emprunter gracieusement en appelant la mairie de Villeneuve-d'Ascq.
Un parcours qui du coup permet effectivement de sensibiliser dans ce type de manifestation, qui permet de se rendre compte aussi des difficultés qu'on peut avoir lorsque l'on est malvoyant ou aveugle.
Absolument, on va percevoir sous les pieds tout ce qu'on peut toucher ou avoir dans la rue, notamment avec les problèmes des travaux, etc. Et aussi ce parcours, on peut l'utiliser aussi en fauteuil, mais là, aujourd'hui, on fait que à la canne et sous bandeau.
Alors j'ai pu regarder un petit peu le parcours en arrivant, donc on va retrouver effectivement ces bandes au sol qui permettent de se rendre compte qu'on approche du bord de la route, et puis il va y avoir des obstacles tout au long du parcours, des poteaux, des poubelles, tout pour finalement se rendre compte d'un trajet quotidien dans une ville telle que Villeneuve-d'Ascq aujourd'hui.
Absolument, il y a quelques pièges, ou même au bout des travaux avec la bande qui alerte des travaux qu'on ne peut plus avancer, sauf qu'il n'y a rien en dessous, la canne passe en dessous et nous on arrive au fil.
Alors sur votre stand, on peut tester en tant qu'aveugle, au sens où vous avez vraiment totalement masqué la vue, et puis vous proposez aussi des lunettes qui traduisent l'impact de diverses pathologies oculaires.
Absolument, c'est en fait vous êtes des bien-voyants, il y a les non-voyants qu'on imagine, les aveugles, et en fait au milieu il y a des tas de façons de mal voir suivant que la partie de l'œil est atteinte, et donc j'ai quelques paires de lunettes qui simulent quelques pathologies.
Eh ben, on va pouvoir lancer la démonstration, on va équiper Lucie, on va peut-être récupérer tes lunettes, ça sera peut-être plus pratique, on va les laisser là, voilà. On est en direct évidemment, Jean-Philippe, et donc on va équiper Lucie d'un bandeau.
Mais je vais surtout montrer aussi à Lucie comment on tient une canne, parce que si on ne sait pas la tenir ou comment on l'utilise, voilà. Donc la canne, elle se tient ainsi, on met la main autour de la poignée, pas le doigt longé, sinon on va se tordre. Donc à gauche ou droite, et on balaye, c'est le poignet qui balance. La canne, on la tient au niveau du nombril, puisque c'est le milieu du corps. Si mon pied droit est devant, je balance ma canne à gauche. Je sais que je suis en sécurité, donc maintenant j'avance et je mon pied gauche et je mets ma canne à droite. Là, j'arrive, j'ai un obstacle, je sens que ma canne heurte. Si je lève ma canne, mon pied est trop loin, donc je ne saurais pas où est mon obstacle. Donc je continue d'avancer jusqu'à l'obstacle, et quand j'y suis devant, je peux monter ma canne et je sais que je dois lever le pied.
Est-ce que tout te paraît clair, Lucie ?
Tout me paraît très clair. Là, ça va être surtout une histoire de coordination des mouvements que je ne suis pas sûre de posséder.
Eh bien, tu vas peut-être découvrir des choses.
Mais je serai à côté.
Voilà, puis on va évidemment t'accompagner. Alors, on va effectivement mettre un masque de nuit, en fait, à Lucie, qui ne voit absolument plus rien. Tu confirmes, Lucie ? Tu ne vois plus rien, Lucie ?
Absolument pas. Je vois un peu de la lumière en bas, mais c'est tout.
Voilà, parce que effectivement, tu es parfaitement masqué. Alors, Lucie a la canne en main. Il y a Valérie qui est en train de la mettre en place pour que Lucie ne se tamponne pas avec les gens. Et puis, Lucie est partie.
Et vous arrivez, vous avancez. Avancez, Lucie, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de marche. Alors, hop, voilà. Là, vous êtes dans l'axe tout droit.
Tout droit.
Vous sentez que la canne
heurte,
donc vous avancez jusqu'à l'obstacle.
J'avance jusqu'à l'obstacle.
Donc là, vous savez que vous pouvez lever le pied, vous avancez votre canne.
D'accord. Alors,
stop, Lucie.
D'accord.
Qu'avez-vous sous les pieds ? Avancez un peu.
J'ai quelque chose sous les pieds.
Qu'est-ce que vous avez sous les pieds ?
Un sol inégal.
Vous trouvez pas que ce sont comme des boules ?
Si, ça fait un peu genre plaque d'égout ou antidérapant, un truc comme ça.
Alors non, en fait, c'est une bande podo-tactile, podo-pied-tactile touché. C'est attention, alerte, danger. Attention, je vais traverser une rue. D'accord. Attention, derrière, il y a peut-être un escalier qui descend.
Ça sert à ça, ces bandes ?
Absolument.
D'accord.
Dans les gares aussi, vous avez ces bandes. C'est attention, de l'autre côté, il y a des rails. Donc du coup, on ne gare pas, on ne met pas ses valises sur ces bandes parce qu'on perd des repères.
Okay.
On ne met pas son vélo, on ne met pas les poubelles, on ne met pas les trottinettes, etc.
D'accord.
C'est des bandes d'éveil.
Et beaucoup de gens ont ce mauvais réflexe justement de mettre leurs valises quand ils attendent le train sur ces bandes podotactiles.
Absolument. Donc ils ne se rendent pas compte qu'ils mettent les gens aussi en danger.
Déjà, je pense que l'utilité de ces bandes n'est pas toujours connue en fait.
Absolument, non.
J'en avais aucune idée que ces bandes, c'était des bandes destinées à avertir les personnes malvoyantes qu'il y a un danger en fait.
Alors Lucie va pouvoir avancer un petit peu. Toujours avec sa canne et sa vue complètement à l'arrêt.
En premier commentaire, que l'équilibre n'est pas là. L'équilibre n'est pas au rendez-vous.
On imagine que...
Alors là, Lucie, elle est en train d'agiter sa canne pour repérer le terrain. Et je pense, Lucie, que tu as repéré quelque chose.
Alors là, je pense que j'ai un obstacle ici, là, ici. Alors de là à déterminer ce que c'est, je ne sais pas.
Voilà.
Je pense que c'est une poubelle, mais après ça, je l'ai vu quand j'avais mis.
C'est ça, effectivement, mais oui. Alors, il vaut mieux, effectivement, ne pas toucher un objet dont on n'arrive pas à détecter ce que c'est.
Bah, s'il y a quelqu'un qui a craché dessus, tout ça, on peut.
Bien
donc,
sûr.
Quand on a un obstacle comme ça, on le contourne avec la canne.
Là, il n'y a rien. Alors, c'est très étrange parce que je perds absolument tout. Je pensais me rendre. Alors là, il y a un poteau que je n'avais pas vu. Et en vrai, avant de rentrer sur le parcours, je pensais me rendre compte des dimensions du parcours. Et je me rends compte qu'il est bien plus fin que ce que je pensais.
Voilà, donc on n'a pas tout à fait la même notion, effectivement, des dimensions, quand on est comme ça à l'aveugle, des dimensions et de l'espace et du positionnement dans l'espace. Hein. Ça perturbe pas mal, visiblement.
Oui, ça perturbe pas mal, effectivement. Parce que autant Lucie elle fait des mouvements assez amples avec le bras, autant les pas sont moins assurés, ce qui peut se comprendre effectivement. Alors là Lucie arrive sur la fin du premier module du parcours avec de nouveaux obstacles et eh bien, elle est en train de quitter la première partie du parcours et elle va s'orienter ensuite vers la suite du chemin.
Idée à l'autre module.
Alors votre coude il est là.
Voilà.
Voilà, donc là, il y a Valérie, en fait, qui est en train de guider Lucie vers la suite du parcours. Parce que là, en fait, on est à l'extérieur de tout ce module. Jean-Philippe, pour que tu te rendes compte, en fait, on est dans les allées là du salon. Donc oui. Effectivement, quand on n'a pas l'habitude, on peut effectivement risquer l'accident avec un visiteur du salon. Et ce serait quand même bien dommage. Voilà, donc on continue, bien sûr, ce petit tour sur le parcours d'éveil sensoriel.
Voilà, parcours d'éveil sensoriel que vous pouvez d'ailleurs essayer hein, si vous le souhaitez, hein, si vous avez envie de vivre cette expérience. Hein, c'est tout au fond du salon.
Vous avancez comme tout à l'heure.
Autonomique.
Voilà, vous avancez au bloc. Encore un peu. Non, parce que jusque votre canne. Voilà.
Comme ça.
Voilà.
Hop.
Et là, vous pouvez avancer. Toujours tout droit.
Effectivement, je vois Lucie
là,
évoluer.
Le mur, on pourrait dire les planches que vous avez
sur le
mur,
parcours.
Là. Ici, c'est comme si c'était les maisons.
D'accord.
Ça peut un repère, ou alors la chaussée derrière.
D'accord.
Ça peut permettre de marcher droit.
Ok, et là, il y a un autre danger ici.
Là, c'est pareil.
D'accord.
Absolument, bravo.
J'ai retenu la leçon. Alors là, il y a...
C'est la jonction entre les modules.
D'accord.
En même temps, ça peut être dans des travaux dans la rue, une malfaçon, quelque chose qui est cassé.
Ok, alors on va...
Alors en réalité, ça correspond à un trou. Hein, il y a un trou entre les deux modules, pour qu'on se rende compte, ce qui symbolise effectivement un trou qui pourrait être dans la chaussée, Jean-Philippe.
Oui, effectivement, donc voilà, ça permet aussi de matérialiser ce type de danger. Hein.
Toujours représenté, effectivement, on le disait, par les fameuses bandes podotactiles que l'on voit régulièrement dans la rue d'ailleurs.
Avancez, là je vous guide votre canne. En fait, c'est pour l'exemple. Là,
d'accord,
vous heurtez quelque chose. Je vous dis, je fais demi-tour sur ma gauche.
Oui.
Là, on avance. Avancez. Avancez. Touchez là, vous êtes coincé. Touchez avec votre main là.
Avec ma main ?
Ouais. Là, ici. Vous avez.
Ah oui, ah
c'est
oui,
la rubalise des travaux.
D'accord. Okay.
Sauf que votre canne, elle passe en dessous.
Oui.
Donc, vous savez, vous arrivez à la rubalise.
Oui.
Et votre canne est passée en dessous, vous savez que vous n'avez pas des travaux, vous ne le savez pas, donc vous pouvez...
Donc en fait, je fonce dedans.
Absolument, c'est pour montrer aussi les problématiques, s'il y avait des trous derrière, etc. C'est simplement pour montrer tout ça.
D'accord.
Et c'est des problématiques qui ne sont pas prises en compte, forcément.
Et vous faites un quart de tour sur votre droite,
on parlait
en relevant la canne, hein, parce que là, vous êtes sous la rubalise.
parler des travaux, hein, la problématique des non-voyants n'est pas forcément prise en compte lorsqu'il y a des travaux, hein, c'est pas toujours évident. Hein.
Voilà, et en fait là Lucie est en train de contourner dans un espace très très réduit tout de même, puisque elle, c'est comme si dans une situation dans la rue nous avions le fameux piéton prenait le trottoir d'en face. Il n'y a pas toujours l'espace pour pouvoir passer comme on souhaite, bah voilà, Lucie a rencontré ce genre de difficultés.
Faire marcher.
D'accord.
Dans les cailloux comme vous avez trouvé.
Donc je me disais que la canne butait contre les cailloux en fait.
Ouais. Et au pied vous le sentez aussi ici.
Oui.
On a des choses comme ça qu'on ne touche pas pareil.
D'ailleurs, vous allez pouvoir voir des photos hein, de Lucie en train d'évoluer sur la page Facebook de Radio Plus grâce à Laura.
Il y aura des photos sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez déjà nous suivre sur Instagram. Ben voilà, Lucie a terminé le parcours. Elle est en train d'avoir le débriefing en fait, puisque Valérie Accard est en train de lui expliquer tout le chemin que Lucie a fait. Et on imagine aussi, je poserai la question à Lucie dans un instant, que le temps, la notion du temps a dû paraître à Lucie extrêmement longue. On s'en rend pas forcément compte, mais on va voir ça dans un instant. Le temps que Lucie débriefe en fait avec Valérie Accard, il y a des petites explications de ce qu'on a loupé.
On imagine effectivement que l'expérience a dû être assez déconcertante.
On va voir ça avec Lucie qui est en train de récupérer ses affaires, qui est en train de rendre le matériel qui nous a été gracieusement prêté. Et puis on va en discuter tranquillement. Bah, Lucie, tiens, raconte-nous un petit peu ton expérience.
C'était une expérience assez déstabilisante, je dirais, et très enrichissante aussi. C'est quelque chose dont on n'a vraiment pas l'habitude. Et l'équilibre, je me rends compte que l'équilibre, quand on voit et l'équilibre de quand on ne voit pas n'est pas du tout le même. Donc je pense aussi que c'est pour ça qu'au début j'étais pas du tout en confiance. J'avançais très très lentement, le temps de me faire à la coordination canne pas et le temps de me faire à l'équilibre aussi. À la fin ça allait un peu mieux, je pense que j'avançais plus vite. Pour autant, par exemple, il y avait un ruban de travaux que j'ai pas pu détecter. Et donc ça, comme m'expliquait ma guide, s'il y avait eu un trou derrière, je serais tombée dans le trou en fait. Donc c'est une expérience super, super enrichissante. Il faut aussi appréhender le terrain avec ses pieds, ce dont on n'a pas l'habitude en fait quand on marche, sauf si on marche à pieds nus, mais quand on marche, on n'a pas l'habitude de sentir les aspérités du terrain, etc. Là, c'est une expérience qui est aussi possible avec ces modules. Donc au final, je pense que très sincèrement, c'est une expérience qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie pour un peu se rendre compte des difficultés que rencontrent les personnes malvoyantes, parce que je pense que c'est vraiment un truc qu'on ne peut pas imaginer si on ne l'a pas testé en fait.
Voilà, le message est passé, Jean-Philippe.
Bien voilà, merci en tous les cas pour cette réaction, Lucie. On imagine que c'est une expérience qui va aussi interpeller les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément non plus conscience de toutes ces difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap et qui ont par exemple ce handicap de malvoyance ou de non-voyance. Voilà, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on est effectivement valide et que tout va bien.
Qu'il faut tester, hein, parce que de plus en plus d'associations proposent justement cette sensibilisation, cette initiation. Comme nous l'expliquait Valérie, là aujourd'hui c'est une initiation, enfin aujourd'hui et demain d'ailleurs c'est une initiation qui est proposée pour être sensibilisé à la déficience visuelle. D'autres associations proposent de la sensibilisation au parcours en fauteuil. C'était le cas notamment de l'association Un Autre Regard qui fut notre invité dans la dernière émission du Handicap Aujourd'hui, qui régulièrement propose sur Biberclos des sensibilisations au trajet en fauteuil. Je pense vraiment que c'est quelque chose à faire une fois dans sa vie, oui, mais régulièrement pour se rendre compte aussi et pour prendre conscience des enjeux.
Voilà qui est dit. Allez, tout de suite, eh bien, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve toujours après au Salon Autonomique de Lille. On est toujours ensemble jusque 17h sur Radio Plus. We'll be right back. Dépêche Mode sur Radio Plus avec Everything Counts. Dans quelques minutes, eh bien, ce sera la pub sur Radio Plus. On se retrouvera ensuite à partir de 16h pour la suite et fin de cette première journée, au Salon Autonomique de Lille à Lille Grand Palais. Salon donc qui vous propose tout un tas d'innovations, que ce soit au niveau des véhicules, des fauteuils électriques, des fauteuils tout court, de l'habitat, plein de choses à découvrir. On est encore ensemble, et bien une heure sur Radio Plus pour parler de tout cela. Allez tout de suite, Gaëtan Roussel avec Help Myself.
S'arrêter si l'on nageait sans respirer, aurons-nous de l'air cet été? Tout le monde cherche à s'échapper.